meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Wie geht's? Do you feel good? Comment ça va? Bien! Bon!
Bonsoir à toi qui écoute la radio en ce dimanche soir, 22h et quelques minutes. Eh bien, c'est l'heure de la causerie, comme tous les dimanches, effectivement, sur l'antenne de Radio Canu, toujours au 102.2 de la bande FM et sur radiocanu.org, partout ailleurs, évidemment. Et ce soir, la causerie, c'est l'équipe habituelle. À la technique, nous avons Clara.
Bonsoir.
Bonsoir. Nous avons Fab aussi.
Bonsoir, bonsoir Jean-Yves.
Bonsoir, 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 merci, bonsoir. Alors, avant de... Oh là là, je m'entends très fort, c'est incroyable.
Bah, baisse ton micro.
Ah ouais, c'est... baisse ton micro, mon casque.
Baisse ton casque.
ok, ouais.
Et parle moins fort dans le micro.
Oh, oh là là, quelle est mauvaise. Alors, on vous rappelle évidemment comment nous joindre. Alors, on le fait tous les dimanches, mais on espère toujours avoir vos retours. Alors, on continue, hein, on persévère. N'est-ce pas? Donc, c'est à l'adresse mail suivante, lacauseriecanu@gmail.com. Lacauseriecanu@gmail.com. Vous pouvez évidemment entendre toutes les 475 causeries précédentes sur le blog de l'émission, c'est à blogs.radiocanu.org/lacauserie. Et sinon, vous tapez simplement la causerie Radio Canu et vous tomberez sur nous, évidemment. Et ça se passe pareil aussi sur un certain fameux réseau social, commercial, enfin bon... qui fait du lien, mais pas forcément, mais bon, voilà, on y est quand même. Et sur certains autres réseaux aussi, comme Mastodon, etc., etc. Et merci à celles et ceux qui partagent, qu'on ne connaît pas forcément. Et ben c'est carrément cool, merci beaucoup.
Et surtout les trucs de podcast.
C'était ça. Voilà. J'attendais que tu nous en parles de la balado-diffusion.
Voilà, sur les, comme diraient nos amis québécois, sur la balado-diffusion.
Très
voilà,
bien,
vous pouvez trouver la causerie. Mais toujours taper la causerie Canu ou Radio Canu, parce que sinon, il y a plein d'autres causeries qui ne servent pas à grand-chose.
Bah,
non,
tout cas,
je plaisante. C'est pas nous, c'est tout. Il y en a un truc bien qui s'appelle la causerie autrement.
Mais certainement, voilà. Ça devrait exister. L'ego. Le melon.
Surdimensionné.
Voilà.
Voilà. Alors donc, Jean-Yves, c'est toi qui vas démarrer cette soirée. Et ça va, ton sujet, il va démarrer tel le bruit que fait un tir de LBD.
Waouh, c'est-à-dire vite.
Non, je sais pas.
Bruyant.
Bruyamment.
Ouais, c'était pas super, ton lancement t'y réfléchira. Alors oui, effectivement, ce soir, je voulais revenir sur les derniers événements qui ont eu lieu à Sainte-Soline ou encore durant le mouvement social contre le recul de l'âge de la retraite, hein, enfin oui, du droit à la retraite. Alors au choix, hein, des blessés, des mutilés, des personnes entre la vie et la mort, et cela n'est évidemment pas le fruit d'autres manifestants qui se seraient mis sur la gueule, hein, du tout, du tout, du tout. Non, non, ces personnes ont été blessées, mutilées entre la vie et la mort, il y en aura deux au moins, en raison de la violence policière ou des violences policières. Et ce qui m'intéresse plus précisément ce soir à ce sujet, c'est en fait la réaction du pouvoir politique en place, que ce soit Macron ou Darmanin. À savoir, cette réaction, bah, c'est une défense sans faille des flics, hein. Une minimisation de leurs faits, absolument, hein, c'est indiscutable, la criminalisation du mouvement de contestation, évidemment, la répression de ce même mouvement de contestation, et le tout hein, à coup de falsification des faits, de mensonges. Bref, on est dans quelque chose qui ressemble à un réflexe pavlovien. Hein, même si parfois, les mêmes qui ont pu mentir, etc., ben vont revenir sur leurs propres déclarations mensongères. Et des fois, pas très longtemps après. Ils entendent « flic mis en cause » et direct, on entend « les forces de l'ordre se défendent » et autres « il est inadmissible de s'en prendre aux forces de l'ordre » ou encore « c'est du terrorisme ».
Ou le très très drôle du « si c'est arrivé, c'est parce qu'ils sont fatigués ».
Ah oui, j'ai oublié de le citer, mais...
Celui-là m'avait quand même halluciné.
Il est merveilleux. C'est, des fois, tu te dis « t'y penserais pas ». Et ben ça, il y en a quand même qui l'avance comme argument, quoi.
On peut faire un parallèle tout bête, c'est qu'imaginons n'importe quel autre métier, je sais pas, disons un restaurateur,
ouais.
Et puis la personne, en fait, elle vend que des plats périmés, les gens ils tombent tous malades, et puis son excuse, c'est de dire « bah, j'étais fatigué ».
Oui. Ou un chirurgien, une chirurgienne,
voilà, ouais.
Qui raterait des opérations... Parce que bon, il faut comprendre,
j'étais un peu crevé.
C'était la fatigue. Ah oui,
voilà,
ok.
Non, mais on voit bien que c'est une excuse quand même qui est juste hallucinante. Enfin,
je pense. Je pense.
Voilà, quoi.
Deux exemples hein, pour qu'on se comprenne bien. Alors au sujet de Sainte-Soline et des violences, bah, dès le lendemain en fait, Darmanin a déclaré avec plein d'assurance, hein, je cite, « aucune arme de guerre n'a été utilisée par les forces de l'ordre ». Et là en fait, on est déjà face à un mensonge. Et ça a été documenté hein, par des journalistes en détail. En fait, des grenades modulaires de lacrymogènes, qui sont nommées GML2, ce sont des grenades classées en catégorie A2. Alors déjà, pour rappel, ce que c'est ces grenades hein, dont on ne se rend pas forcément compte. Alors ça diffuse du gaz lacrymo, et en plus, ça émet un bruit assourdissant lorsqu'elle explose, et ce bruit en fait surpasse le bruit d'un avion au décollage et dépasse le seuil de douleur sonore. Voilà, c'est juste hein, quand même, c'est pas des bombes de bisous. Hein,
c'est une sorte de mélange entre la grenade, comment on appelait ça
assourdissante.
Ouais, mais assourdissante, ça avait un mot paralysante, ils appelaient ça à une époque. Parce que t'as tellement mal aux oreilles que tu bouges plus. Et le lacrymo, quoi. Je suis sûr que c'est une invention made in France.
C'est très certain. Oh, je crois en plus c'est pas loin de la région Rhône-Alpes.
Mais moi, j'en mets ma main à couper que ça. Et ça, c'est bien français. Ça.
Ah bah attends, on n'a pas de pétrole, mais on a des mauvaises idées. Ça a été fait. Hein, donc on peut en conclure effectivement que des armes classées de guerre ont été utilisées. Mais le cabinet de M. Darmanin s'est défendu de tout mensonge du ministre, estimant, je le cite, qu'il s'agit simplement d'une classification administrative, mais pas d'armes utilisées sur le terrain de guerre. Ah, mais alors, si c'est qu'une histoire de classification administrative, tout va bien. On continue donc de passer sous silence les mutilés, les traumatisés, etc. Nickel. Mais alors, quand Darmanin déclare... Par contre, des armes de guerre de la part de certains casseurs l'ont été, notamment, je pense, au cocktail Molotov. Bah, sur quoi s'appuie-t-il pour parler ainsi? Vu que la classification administrative n'a pas d'importance.
Et je crois pas que le cocktail Molotov soit classé arme de guerre.
Non, du tout, non.
Au passage.
Ou est-ce que c'est peut-être simplement le fait que des personnes aient refusé finalement la violence légitime de l'État qui lui ferait dire ça, en fait? Peut-être. Parce que, a priori, il y avait moins quand même de cocktails Molotov que de bombes, de grenades modulaires et de autres bombes assourdissantes et de grenades de désencerclement, etc., etc. Quoi. Pardon, vas-y.
Non, vas-y. Dis ce que je voulais dire.
Ah, ok. C'est formidable. Que des grands esprits dans cette équipe. Alors attendez, maintenant je me suis perdu. Donc voilà. Donc autre déclaration du même sinistre de l'intérieur, toujours autour de Sainte-Soline, aucun gendarme n'a utilisé de LBD en quad.
Alors, oui, parce qu'ils avaient inventé la Bravem des champs.
Ouais,
c'est-à-dire que la Bravem des villes, donc ça c'est sur des motos,
deux roues
à moto, et la Bravem des champs, c'est sur des quads.
C'est exactement ça. C'est la même merde, mais sur quatre roues. il a pu dire ça, même si en fait, dès samedi, en fait, dès le jour même où ça s'est passé, hein, bah, on a pu toutes et tous constater que ce genre de scène était réel en fait via les réseaux, etc., parce qu'il y a quand même pas mal de communication qui se faisait là-dessus
et de vidéos
et de vidéos. Oui, enfin oui, il y a eu des vidéos, etc. Darmanin je pense qu'il sait qu'on les a vus quand même, ou alors c'est qu'il vit vraiment dans un dans une pièce coupée du monde, hein, ce qui serait inquiétant finalement, qu'on peut les revoir en quelques clics, mais il s'en fout complètement en fait, hein, il s'enfonce dans son mensonge. Mais quelques heures plus tard, quand même, sur France 5, Gérald Darmanin nuancera quand même ses propos. Il y a deux lanceurs, c'est totalement proscrit, ces gendarmes seront suspendus. Bon, s'ils ont fait des mutiles et des éborgnés, c'est pas grave, alors, mais quand même.
On pourrait tourner sa phrase autrement, parce qu'il a pas osé le dire comme ça, mais il y en a deux qu'on a vus.
Oui.
Parce qu'en fait, c'est ça le truc. C'est qu'en fait, il existe des vidéos et des photos sur lesquelles il y a deux, on les voit, ils sont identifiables. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas plus. C'est juste qu'il n'y a que ceux-là qu'on a vus. Voilà.
C'est ça. Donc, on retombe sur ce que je disais avant. Hein. Il soutient bien évidemment, aveuglément, finalement, ses flics. Mais faisons comme si de rien n'était. Hein. Hein, tout va bien.
Mais ce n'est pas une nouveauté. D'ailleurs, tu vas le dérouler derrière. Mais au-delà de ça, ce qu'il y a de bien, c'est qu'aujourd'hui, comme il y a des vidéos, des choses comme ça, on a quand même des preuves vachement tangibles. Et notamment une sur Sainte-Soline. Darmanin, pendant très longtemps, a affirmé, et Macron aussi d'ailleurs dans son interview, que c'était les militants, mm-hmm. hein, ce qu'ils appellent l'ultra-gauche.
Ouais, le retour de l'ultra-gauche.
C'est hyper, super, total gauche. Moi, j'adorais cette chanson.
C'est ça.
En fait, voilà, c'est l'ultra-gauche donc, qui aurait attaqué mm-hmm. en premier et qui s'en serait pris aux forces de l'ordre en premier. Sauf qu'il y avait des observateurs, et notamment d'associations qu'on ne peut pas trop prendre pour des gens qui ont envie d'agiter. Il voilà. Y a Amnesty International, la Ligue des droits de l'homme.
Leur idée première, c'est pas de cramer du flic ou de retourner à l'État.
Ouais, y a des partis politiques aussi qui filmaient, notamment Europe Écologie Les Verts, et on peut les remercier parce qu'ils ont fait un bon boulot là-dessus. Et en fait, ils ont démontré que les tirs sont d'abord partis du côté des policiers. C'est-à-dire qu'il y a, selon les chiffres, hein, mais devant eux, il y a à peu près, on va dire, entre 15 et 20 000 personnes, peut-être 30 000 comme annoncé par les organisateurs, mais ça ne change pas grand-chose, qui sont assez compacts. C'est-à-dire qu'il suffit de voir les images, hein. C'est une manif, hein, donc ils sont compacts, ils ne sont pas violents, ils tournent en fait, ils font une espèce de ronde devant la bassine qui est protégée par 3500 flics. Et d'un coup, on entend deux tirs, qui sont des tirs de grenades de désencerclement envoyés sur une foule compacte. Alors ça, c'est l'utilisation d'une arme de guerre. Hein, voilà.
Et on retombe sur le début du sujet.
Voilà. Et oui, non, mais c'est pour ça que je revenais là-dessus, parce que c'est là où on y est. Et donc du coup, après, Darmanin on dit « Ah oui, mais les gens, ils ont riposté. » Alors ouais, on revoyait l'image quand même, c'est-à-dire une foule compacte. Et d'un coup, deux grenades de désencerclement qui arrivent au milieu des gens, alors qu'ils ne sont pas en contact avec les policiers.
Oui.
Elles sont envoyées à distance.
Non, oui, ils sont très
loin. C'est une... Les gendarmes, d'ailleurs, c'était plutôt les gendarmes. Oui. Donc, c'est une vraie volonté de tirer à vue. Mm-hmm. Voilà.
Moi, je vais quand même continuer mon sujet. Mais c'est pas pour toi que je le dis. J'espère que vous resterez quand même jusqu'au bout de l'émission. Mais je vous invite aussi à regarder sur les réseaux. Il y a un journaliste du média Blast, si je ne me trompe pas,
ouais, qui a fait un super
qui
boulot,
était
ouais.
sur place, en fait, et il disait. Il suit des mouvements sociaux, etc. Régulièrement. Et là, en fait, il nous montre vraiment le déroulé, quoi. Et justement, il montre, en fait, d'un coup, en fait, ça pète devant eux. Ils comprennent pas pourquoi. C'était pas du tout.
Ah, mais il y avait rien.
Il y avait pas d'attaque. Il y a eu aucun truc qui a été lancé sur les keufs. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là où les flics se déchaînent à fond, quoi.
Clairement.
Et après, évidemment, il y a de la réponse, mais. On n'est pas des jésuites, on n'a pas pour habitude de tendre la joue gauche quand on s'en prend une sur la joue droite. Donc ça, c'est peut-être ce qui déplaît à l'État, hein, mais bon. Je continue. Et alors, justement, tu parlais du président tout à l'heure, je crois, quand il dit, en fait, vous avez des milliers de gens qui étaient simplement venus pour faire la guerre, c'est inacceptable. Et donc, je réaffirme mon soutien aux élus et aux forces de l'ordre. Nos forces de l'ordre, avec beaucoup de courage, ont avancé. De quoi parle-t-il, en fait ? De qui parle-t-il, en fait ?
De la guerre.
Parce qu'on n'a vu personne avec des mitraillettes, ni aucun lance-roquettes du côté des manifestants et des manifestantes, en fait. Par contre, on a vu des flics avec des armes classées de guerre, on a vu des grenades de désencerclement utilisées. Ou alors la classification d'armes de guerre est aléatoire. Hein. Enfin, c'est surtout si... En tout cas, c'est jamais le cas quand il s'agit de l'État et de son bras armé qui s'appelle les gendarmes, les flics, etc., etc. Et c'est vraiment ça. Enfin, je veux dire, c'est là où justement je parlais tout à l'heure enfin de criminalisation du mouvement de contestation et tout ça. C'est exactement ça. On est exactement dans cet instant-là, c'est-à-dire dire que des milliers de gens, genre les 30 000 qui étaient là, étaient venus pour faire la guerre. Bah vous, si la guerre vous la faites avec des cocktails Molotov, je crois que ça se saurait. La guerre, on la fait pas comme ça en fait.
Non, puis c'est là.
Donc c'est vraiment c'est consciemment diffusé dans l'esprit des gens et à travers les médias qu'en face d'eux, la police n'avait pas le choix que d'ouvrir le feu, quoi, d'une certaine manière.
Et puis, on peut quand même noter le degré d'indécence d'utiliser le terme guerre.
Oui.
On va rappeler quand même, il y a une guerre en Ukraine, il y a une guerre au Yémen, il y a une guerre au nord Kivu, au République démocratique du Congo. Donc, il y a 6 millions de morts au Congo aujourd'hui, à peu près, hein, si on estime. Le Yémen, je crois, de mémoire, c'est 800 000. L'Ukraine, on n'a pas les chiffres parce que personne ne veut les donner, mais d'après certains observateurs, on serait autour du demi-million, donc 500 000 morts. Il y a un moment donné, en fait, c'est ça une guerre. Faut un peu arrêter avec les mots employés. Macron, il emploie ce mot à toutes les sauces. On fait la guerre au virus. Vous voyez, c'est la même chose. C'est une connerie absolue. On va pas prendre.
Ouais, c'est le lexique guerrier, quoi.
C'est un lexique qui est très particulier. Mmh. Et surtout, moi, je voudrais quand même rappeler, c'est qu'en France, ce lexique-là, il appartient à une partie politique très connue, qui est l'extrême droite. C'est-à-dire qu'en fait, cette façon de parler, cette façon de criminaliser en permanence, cette façon d'employer le mot guerre à toutes les sauces, c'est le fameux ensauvagement, c'est les fameux the guerre, machin. Ça, c'est l'extrême droite. Et quand on reprend ce discours-là, quand on utilise ces mots-là, ben en fait, on fait du fascisme. Hein. Pardon, mais
oui, mais ils font sûrement ça pour que le Front National n'arrive pas au pouvoir.
C'est ça, c'est pour que eux soient fascistes.
Ah, mais c'est pour que le fasciste soit quand même au pouvoir sans le Rassemblement National. Ok,
mais les mots sont importants et là, et employés comme ça, ça a vraiment un sens, quoi. Ouais.
Alors évidemment, hein, si Darmanin est plutôt pas mauvais quand même dans le rôle du ministre mytho, on dirait Serge le mytho, mais là qui a du pouvoir quand même. Hein, ben on peut se demander s'il est le seul, en fait, parce que moi il y a quand même tout ça qui m'interroge, en fait. Et en gros, en fait, ces mensonges, ces falsifications, sont-elles réservées à ce gouvernement-là, en fait ? Alors, je vous propose de remonter au 27 octobre 2005. Ziad Ebouna, 17 ans et 15 ans, meurt électrocuté dans un transfo électrique à Clichy-sous-Bois. Il y en avait un troisième ado avec eux qui s'appelait Mouitine, qui lui a terminé gravement blessé physiquement et psychologiquement. Et là, on peut se dire, alors à l'époque, alors pour peut-être les plus jeunes, ouais, tu peux me dire, les plus jeunes, en fait, ça a valu quand même un déclenchement de l'état d'urgence qui n'avait pas été vu depuis la guerre d'Algérie. Ouais. Donc c'est, voilà, hein, c'était un climat formidable. Et là, à l'époque, quelles étaient les réactions du pouvoir politique en place ? Eh bien, trois jours après, à l'époque, hein, 2005, donc, au JT de TF1, un certain Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, ça avait dû lui porter chance, vu qu'il est arrivé au pouvoir après, nie l'implication de la police dans l'affaire et déclare que les trois victimes n'étaient pas poursuivies par la police. Quand je parlais de réflexe pavlovien, on est complètement dedans.
Et à l'époque, parce qu'il nie des dizaines de témoignages qui disent qu'il y avait des flics qui couraient après.
Ça. Dans les faits, les flics, en nombre, de ce que j'ai relu, ils étaient autour de 15-20, les ont poursuivis, hein, vraiment, ils leur couraient après. Et on apprendra même ensuite le cynisme d'un flic, disant, en parlant de ces jeunes qui sont rentrés dans le transfo, qui s'approchaient du transfo, il disait... En même temps, s'ils rentrent sur le site, je donne pas cher de leur peau. Bon, pour des gens qui n'avaient rien fait, effectivement, les flics, quand même, ils avaient pas mal de choses sur leur dos, quand même. Hein. Autre exemple de mensonge d'État, remontant encore plus loin, le 10 juin 1985. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir ? Eh bien, le Rainbow Warrior, c'était le bateau de Greenpeace, hein, qui est utilisé pour protester contre les essais nucléaires français, alors que le bateau est amarré à Auckland. Eh bien, une bombe explose à son bord et un photographe est tué. Dans un premier temps, réflexe pavlovien, hein, les autorités françaises tentent de manipuler les médias et ces derniers diffusent une litanie de fausses pistes. Agents provocateurs, services secrets britanniques ou russes, militants d'extrême droite, barbouzes calédoniens, etc., etc. Dans les faits, ce sont des agents au service de l'État français qui ont agi sur demande de l'État français et les hommes de gauche... au pouvoir à l'époque était largement au courant, vu qu'ils l'ont initié.
Bah, on peut rappeler quand même que le ministre qui a donné l'ordre s'appelait Charles Hernu.
C'est tout à fait ça.
Il a une place à Villeurbanne, oui, c'était maire de Villeurbanne.
C'est exactement
voilà,
ça.
Donc il ne faut jamais oublier qu'on a fait une place des grands salopards à Villeurbanne.
Oui, mais il était de gauche, ça change tout. Et des exemples comme ça, en fait, hein, il y en a des dizaines, des centaines, des milliers, hein, où dès que les flics sont incriminés, dénoncés, remis en question, le pouvoir les défend d'entrée de jeu. Il n'y a, y a rien d'autre.
Bah, il suffit de se rappeler, vous savez c'est horrible ce que je vais dire, parce que j'ai se rappeler, c'est que beaucoup de gens l'ont oublié, et j'ai même moi oublié son prénom, je suis désolé. Mais vous savez, il y a une vieille dame à Marseille qui est morte, qui a été... Zineb, non, je crois.
Zineb, tout à fait. Oui, tout à fait.
J'avais ce prénom en tête.
80 quelques années.
Ouais. Et en fait, elle était juste à sa fenêtre, oui. Et donc elle a pris un tir d'une grenade de lacrymogène dans la tête. Et en fait, donc déjà, ça prouvait deux choses. La première, c'est que la grenade n'était pas tirée correctement, parce qu'on n'a pas dû passer là. Et la deuxième, surtout, c'est que dès le lendemain, ouais, on avait là aussi un ministre qui nous expliquait non, c'est pas une grenade, c'est pas la police et tout. Sauf que tout a démontré que c'était ça. Et aujourd'hui, bah, en fait, on n'en entend plus parler, parce que là aussi, l'État fait des procédures, notamment judiciaire, pour ne pas donner le nom des policiers qui étaient présents, pour dire on sait plus quelle brigade était là. Mmh. Et en fait, la famille de cette femme, en fait, elle se bat tous les jours pour avoir en fait la vérité. C'est-à-dire qu'ils savent ce qui s'est passé plus ou moins, on le sait tous, sauf que l'État continue à nier. Et on voit qu'on est dans la défense du corps policier qui ne peut jamais avoir rien fait de mal, évidemment.
Normal. C'est tout à fait ça.
Comme quand il roule sur des manifestants en moto, comme quand il...
Il les avait pas vus.
Quand il viole des gens... Ah oui, parce que, excusez-moi, mais rentrer les doigts dans le vagin d'une femme, c'est... dans la vulve d'une femme, c'est un viol. Mm-hmm. Demander déshabiller à moitié un manifestant à Lyon, comme c'était le cas ce week-end, c'est un acte qui est un acte d'humiliation à caractère sexuel. Donc tout ça, c'est ce que fait la police aujourd'hui. Mm-hmm. Voilà,
C'est pour ça que je me dis, peut-être que des dizaines, des centaines, des milliers de cas, en fait, ce serait presque des dizaines de milliers de cas, des centaines de milliers de cas, en fait.
Oui, c'est ça.
Si on reprend l'histoire, je pense qu'on est bien au-delà, en fait. Alors, même si pendant longtemps, cette violence étatique était majoritairement réservée aux quartiers pauvres, ne l'oublions surtout pas, en fait, elle éclate de plus en plus, en fait, à la face du plus grand nombre, élargissant, évidemment, son terrain de nuisance. Et on peut dire, je te rejoins là, merci la vidéo, en fait.
Ouais,
parce que longtemps, l'État exerçait sa violence légitime, soi-disant légitime, à l'abri des regards, lui permettant ainsi d'asseoir son autorité sans pouvoir, son pouvoir sans aucun problème, en fait. Là, je pense que le pouvoir, il commence un peu à se chier dessus, parce que finalement, il y a beaucoup de choses qui sortent, et c'est tant mieux, en fait.
C'est pas pour rien.
L'État veut nous fliquer, fliquons l'État, en fait.
C'est pas pour rien qu'il voulait faire une loi qui a été retoquée, d'ailleurs, oui. Qui voulait empêcher
interdire de filmer
les policiers. Sauf que, en fait, à un moment donné, je vous rappelle que tout citoyen, en France, alors moi je suis pas très citoyenniste,
non,
mais c'est quand même écrit dans notre constitution,
oui, c'est
on parle en permanence, tout citoyen est garant de ce que fait l'État en son nom, et donc tout citoyen a le droit, en fait, de critiquer, regarder, interpeller les policiers, sauf que en fait on rentre dans une phase où on dit on n'a plus le droit,
c'est ça.
Et je fais une parenthèse sur la violence légitime, parce que je l'entends beaucoup en ce moment, et notamment dans la bouche de Darmanin et compagnie. Alors il cite souvent Weber, le Max Weber, qui était un des pères de la sociologie, comme on dit, et qui est celui qui a théorisé, d'après eux, le fait que l'État avait le droit à la violence légitime. Alors non, ils vont rouvrir des livres, ça va leur faire du bien, mais c'est pas ce qu'il dit. Pas du tout. C'est même un contresens qu'on lui fait dire. C'est-à-dire que lui, en fait, il théorise le fait que la société est violente, à son époque, que c'est un problème, mais il dit la seule violence qui parfois... La phrase est importante. La seule violence qui parfois peut être vue comme légitime, c'est celle exercé par l'État. Il ne dit à aucun moment l'État a le droit de faire de la violence. Il dit les citoyens parfois perçoivent la violence d'État comme légitime. Et cette phrase ne signifie en aucun cas que Max Weber aurait validé l'idée que l'État avait le droit de faire ce qu'il voulait du niveau côté de la violence parce que c'était légitime. C'est pas ce qu'il dit du tout. Donc on lui fait dire l'inverse de ce qu'il dit, et ça fait 3-4 fois que je vois aussi bien Macron que Darmanin que Véran, que porte-parole du gouvernement, citer Max Weber comme ça en disant « Bah oui, mais regardez, lui il l'avait dit. » Alors non, il ne l'a jamais dit. Et donc, c'est là aussi, c'est un beau mensonge. C'est-à-dire qu'on détourne l'histoire et on lui fait dire l'inverse de ce qu'il disait. Et dans les textes de Weber, ça va même plus loin, c'est qu'il explique que si l'État pratique une violence, il ne peut pas attendre de sa population que la violence y baisse. Mmh. Et c'est même la base de sa réflexion, c'est de dire, en fait, il faut que l'État essaye de montrer comment on peut se passer de la violence pour... alors après, il était pour l'État, mais chacun son truc. Mais lui, son truc, c'était de dire, si l'État est violent, automatiquement, la réponse est violente. Donc c'est énorme, parce qu'on fait dire totalement l'inverse de ce qu'il dit. Et c'est grave, parce qu'aucun journaliste ne relève. ça pose vraiment problème.
Ça, c'est le problème.
Parce qu'il y en a qui relèvent. Je dis ça, c'est pas vrai. Parce qu'il y en a qui l'ont relevé, et notamment Viktorovitch qui fait sur la rhétorique, qui est revenu dessus en expliquant qu'en fait, on inversait ce que disait Weber, et c'est important. Mais juste à un moment donné, il faut avoir ça en tête, quoi. Et quand on vous le sort, vous pouvez dire aux gens, mais il disait pas ça.
Donc après tous ces exemples, hein, on constate donc que le mensonge en fait à la tête de l'État n'est pas une spécificité du pouvoir politique actuel. Alors on peut peut-être se poser la question, est-ce que ce serait plutôt lié à la nature même de l'État ? Je demande, hein, comme ça, en passant. Détenteur, hein, selon lui-même et de ses adorateurs, hein, de cette justement légitime violence, hein, il n'y a que la sienne qui est juste. Sous-entendu que là où bah, sa violence prend place, elle est légale, juste et sera toujours justifiée par le pouvoir politique. Et que toutes celles et ceux qui la défient, cette violence de l'État, qui se placent contre celles et ceux qui ont le droit de l'appliquer, cette violence légitime, comme les flics par exemple, hein, et autres bras armés de l'État, sont donc des criminels et que quoi qu'il leur arrive, ce sera justifié et surtout à ne pas interroger. Parce que c'est ça que ça sous-entend.
C'est ça qu'on fait rentrer dans la tête.
C'est ça que ça sous-entend. Alors si le pouvoir actuel est évidemment un problème, les exemples précédents en fait montrent que ce n'est pas le seul en fait. Hein. Je crois que en fait jusqu'à aujourd'hui tous les autres étaient des problèmes aussi. Donc voilà. Alors n'est-il pas simplement hein, celui d'aujourd'hui, le pouvoir actuel, comme tous ses prédécesseurs et comme tous ceux et celles qui le succéderont, pas simplement les défenseurs de la République, sauce française, défenseurs de l'État, hein, et que son bras armé, eh ben, il est là pour ça, il est là pour le défendre. Et c'est là qu'on peut aussi s'interroger, en tout cas que moi je m'interroge, hein, sur une partie en tout cas de celles et ceux qui aujourd'hui peuvent se situer dans l'opposition du pouvoir politique et qui peuvent être mobilisés entre guillemets contre Macron, contre Darmanin et leur monde et les violences policières. Je dis bien une partie de celles et ceux qui sont mobilisés contre ça, hein. Pas de gros ensembles. Bah, je me demande justement comment cette partie, ou plutôt finalement ces parties, ça serait plus juste, bah, qui courent.
Ah, ces parties politiques.
C'est tout à fait ça. Qui courent après le pouvoir, qui veulent être à leur tour à la tête de cet État. Bah, comment seront-ils et elles lorsqu'ils accéderont au pouvoir en fait ? Parce qu'un État tenu par la gauche qui assassine, en fait, on connaît déjà. Bon, alors elle sera où la donne qui changera tout ? On ne sait pas. Et je me dis aussi, ils seront comme celles et ceux qui les ont précédés en fait. Parce que c'est la nature même de l'État et de son bras armé en fait. Et quiconque veut représenter l'État et sa belle République machin, eh ben, il validera et justifiera tous les crimes que sa police fera. Et ça sera un éternel recommencement. Hein. Et pour le réaliser, moi je me suis dit, tiens, quand on scande des slogans, ça serait bien une fois d'essayer un truc pour voir les réactions qui diraient contre l'État et ses violences. Et ben là, je me dis que ben, peut-être ceux et celles qui étaient jusque-là à vos côtés, eh ben peut-être que d'un coup, ils vont passer de l'autre côté, ils vont dire que c'est vous le problème. Parce que vous allez pointer l'État qui est une des racines du problème. Parce que les flics ne sont que, on va dire, des outils au service de cet État. Voilà, c'était ma réflexion du soir. Bonsoir. Non, mais voilà, c'est peut-être un peu brouillon ou pas, mais je trouve que toujours. Alors, effectivement, hein, ce pouvoir-là, à sa manière, à ses mots, et je veux dire, là, j'ai lu avant les déclarations de Darmanin dans le JDD du jour. Bonjour l'extrême droite, il n'y a pas besoin de l'attendre, elle est déjà au pouvoir en fait.
En tout cas au ministère de l'Intérieur. C'est sûr, hein.
Ça c'est sûr. Et que en fait il y a quand même ce truc là, c'est vraiment, n'oublions pas déjà le passé aussi quoi. Et que le passé est plein d'exemples où les flics, où l'État a couvert des assassinats, a couvert de ce qu'ils disent des bavures, entre guillemets, et en fait. C'est peut-être qu'à force de ne jamais aller à la racine du problème qu'on est voué à perpétuer cette erreur, c'est-à-dire à ne pas regarder où se situe aussi le problème à la racine. Voilà, j'en ai peut-être trop dit.
Espèce de radical qui va à la racine.
À la racine. Eh ben, on passe à la ZIC ?
On va dans la Drôme ?
On va au moins...
Aucun mec ne ressemble à Brad Pitt dans la Drôme. Mais Kevin, crétin de Secret Story 3, oui. Il paraît qu'il a coupé ses cheveux, c'est un imbécile. Mon cousin par alliance, par moment, ressemble à Brad Pitt, mais il n'a pas les mêmes muscles. Mais quel vendetta ne ressemble pas à Brad Pitt, même s'il est blond. Il est nunuche, c'est un connard, il ne mérite pas de gagner la fame de célébrité. Son métier, c'est de faire le buzz. Il a la même voix que Sting dans le dessin animé Fairy Tail. Je partageais ma chambre avec ma copine Léa, qui ressemble à Scarlett Johansson en rousse. Nicolas, mon mono de ski à la plane, ressemble à Hayden Christensen. Je crois qu'il est célibataire, mais je n'avais pas le niveau de ski pour me marier avec lui. Je ne l'oublierai jamais.
Qu'un mec ne ressemble à Brad Pitt dans la Drôme. La vie réelle est agaçante. Et c'est Astéréotypie qui nous le chante. Et si ouais. tu as beaucoup aimé Astéréotypie, je t'invite vraiment à écouter leur album, leurs albums. Et peut-être, si tu es dans la région lyonnaise, allez les voir au concert, en concert à l'épicerie moderne à Fézin vendredi prochain.
Eh oui.
Voilà. Et ben je passe.
Et en plus, tu pourras peut-être tout y croiser.
Oui, peut-être. oui, bon, Clara, toi, tu n'aimes pas.
Clara. Mais... Clara l'aime pas. Et Clara l'aime pas, on sait pas pourquoi.
Parce qu'elle aime pas Brad Pitt. Et je crois qu'elle cherche pas de mec qui ressemble à Brad Pitt, ni dans la Drôme, ni dans le Rhône.
C'est tout à fait ça.
Et juste pour rappeler quand même que Astéréotypie, c'est le groupe issu des gens qui font aussi le Papotin.
Ouais.
Voilà.
C'est ça.
J'ai juste rappelé
si
ça.
Si vous ne connaissez pas, pareil, allez-y, fouillez, regardez, écoutez, c'est très très bien. Et ben Fab, tu vas nous causer littérature.
Ouais, livre.
Ouais, ça va.
Ouais, enfin littérature, enfin livre quoi.
Un livre ?
Ouais, je vais vous parler. Ce soir de Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Alors on va commencer d'abord par rappeler que c'est le quatrième tome de la série des jeux de la faim, les Hunger Games. Ah. Voilà. FIM, hein. J'ai faim.
Oui.
C'est donc, il s'agit en fait d'épisodes, hein, donc comme je disais, qui est intitulé La balade du serpent et de l'oiseau chanteur. On va déjà commencer par présenter l'autrice qui est Suzanne Collins. Voilà. Donc, Suzanne Collins, elle est âgée de 60 ans. Elle est une autrice américaine, hein, classée en France dans les écrivaines pour ados, hein, évidemment, vu qu'elle écrit de la dystopie et de la fantasy, et que quand on est adulte, a priori, on n'en lit plus.
Donc, mais ça, c'est pas du Victor Hugo, ça. Non, je veux dire, t'es en France, enfin.
Donc, voilà, pour bref.
Voilà.
Non, mais ça me fait toujours rire en France où on classe.
Le mépris. Le mépris,
ouais,
oui.
Mais on classe Jules Verne dans les auteurs, alors qu'il faisait de la science-fiction et que, très honnêtement, voilà. Mais tout ce qui, depuis maintenant une vingtaine d'années, on met tout dans. Oh, bah, c'est pour ados. C'est complètement ça. Ridicule. Alors, elle est surtout connue, hein, pour la série Hunger Games, hein, qui a aussi été adaptée au cinéma pour les trois premiers tomes. Et le quatrième est en cours de réalisation ou est fini. Et elle a aussi un succès assez important avec la série Grégor, qui est axé sur un univers fantasy, mais ancré dans des repères connus. Par exemple, genre, il va à Los Angeles. Donc, ouais, c'est un repère connu. Elle a une particularité. Elle aime aussi beaucoup les débats politiques. Et elle se passionne depuis des années sur les rapports de pouvoir et les notions de résistance et d'héroïsme. C'est des choses sur lesquelles elle fait beaucoup, beaucoup d'interventions. Voilà, elle participe à beaucoup d'échanges dessus. D'ailleurs, vous pouvez les trouver parce qu'en ligne, on trouve assez facilement. Elle fait des tables rondes, des échanges Zoom, des trucs comme ça. Et c'est assez intéressant parce que justement, elle creuse ces questions-là. Et elle ne supporte pas la culture héroïque quasiment à 100% masculine, et elle n'aime pas l'idée que la fiction ne puisse pas interroger le réel. Voilà. Donc on voit que c'est quand même une auteure qui, quand elle écrit, n'est pas neutre. Mais elle l'admet. Voilà. Donc sa saga Hunger Games, hein, est clairement un bon exemple. Les trois premiers tomes racontaient l'histoire de Katniss Everdeen, qui envoyait dans les arènes modernes des Hunger Games, parce que les Hunger Games, c'est le jeu de la fin, ça se passe dans une arène. Voilà. Survivait, mais surtout devenait au final un symbole. Elle ira loin jusqu'à participer à la chute du président Snow, dictateur de Panem. Et donc, le changement politique qui s'en suivra sera initié en partie par elle et pas que par elle. D'ailleurs, c'est un des trucs dans les livres de Suzanne Collins que j'aime beaucoup, c'est que ses héroïnes et ses héros sont jamais seuls. Voilà.
Oui, et puis c'est le réel. En fait, rien ne se fait.
Voilà, rien ne se fait tout seul.
Humain,
il n'est pas Superman, quoi. Voilà. Et même les. Voilà, bref. Donc, vous l'aurez compris, quand on lit Suzanne Collins, on ne lit pas qu'un simple roman, on lit aussi ce qu'elle voit comme problème dans notre société. Parce que souvent, ses livres, elle les écrit pour essayer de décortiquer ce qu'elle trouve problématique dans notre société. Et donc ce tome, ce quatrième tome, il parle de quoi finalement ? Alors ce quatrième tome, bah, en fait, c'est un sacré pari qu'elle prend, hein, parce qu'il se passe 64 ans avant le premier tome sorti. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Non mais si tu prends des fous rires, ça va pas le faire, quoi.
Non, promis, j'arrête.
Non mais c'était quoi le truc ?
Non, vraiment rien, je peux pas.
Cette blague était nulle. Bref, donc je disais, ce tome se passe 64 ans avant le premier, et donc avant l'histoire de Katniss Everdeen. Et on suit en fait un personnage, alors là il va prendre encore plus un fou rire, que l'on n'imaginait pas au centre d'un livre, et qui s'appelle Coriolanus Snow. Voilà. Et oui, c'est donc le futur président Snow, qu'on retrouve très jeune, en fait, et on va donc suivre sa jeunesse. Et pourtant, en fait, ça marche, parce que au-delà. Putain, c'est dur ce soir. Il a fini son sujet, et maintenant il peut
non, c'est pas ça, c'est que je me retiens, tu me regardes avec un sourire, et moi ça me fait rire. Voilà, c'est
d'accord.
Tout, pardon.
Ouais, il est terrible. Bon, donc, pourtant ça marche, hein, parce que au-delà, en plus de ça, c'est assez malin. Parce que Suzanne Collins l'a dit dans plusieurs interviews, pour elle, se plonger dans les débuts d'un dictateur, et ben, en fait, c'est un moyen d'interroger sur comment en fait, on le devient, justement, dictateur. Parce qu'elle dit, ben, c'est assez rare finalement les livres qui, souvent, elle dit, le méchant, il est déjà établi. C'est-à-dire qu'on le pose, c'est le méchant. Il est dictateur, il est roi, il est empereur, mais il est là. Mais en fait, on sait rarement comment, ou alors par petite bride. Et elle dit, bon, c'est pas que c'est inintéressant, mais elle dit, comment on évite qu'un dictateur apparaisse si on sait pas comment il devienne. Vous voyez, c'est ça. Donc, elle va faire ça. On va donc suivre Snow à la fin de son adolescence, entre ses 17 et 18 ans. Parce que dans les livres suivants, il est assez vieux quand même, il est même très vieux, et il se maintient en vie avec des procédés pas terribles. Donc on va découvrir son histoire, le poids de son nom, parce que Snow, c'est pas n'importe quel nom dans Panem, voilà. Et la devise de sa famille, c'est « la neige se pose toujours au sommet ». Allez, Snow, neige, oui. Okay. Voilà. On va aussi découvrir ses liens avec sa cousine, sa grand-mère, et le pourquoi de la mort de sa mère et de son père. Parce que les deux sont morts, et il a été élevé par sa grand-mère. Et ça a un sens, tout ça, en fait. Et finalement, c'est le panem de la sortie de la guerre qu'on découvre. Parce que dans Hunger Games, on vous explique, au début des Hunger Games, les premiers tomes, que 74 ans avant, il y a eu une guerre. Et qu'elle a opposé les districts à Panem. Tout ça, vous le savez. Sauf qu'en fait, bah, on vous dit juste ça. C'est-à-dire que vous comprenez pas trop. Et là, en fait, bah, Suzanne Collins, elle dit, bah, tiens, on va se mettre 10 ans après la fin de cette guerre. Et là, vous allez comprendre ce qu'elle était, cette guerre. Quels étaient les enjeux. Donc voilà. Donc Panem, hein, je vous le rappelais, dans les livres, c'est ce qui reste de l'Amérique du Nord après une catastrophe qui n'est jamais vraiment expliquée. On sait qu'il y a eu un gros truc qui s'est passé, qui aurait pas dû se passer. Il reste des bouts d'Amérique du Nord et vivables. Et c'est là que se trouve Panem. Voilà. Et donc, 10 ans avant ce roman, la Grande Guerre entre le Capitole et les districts, 13 au départ et 12 à l'arrivée, les districts, vu qu'il y a eu l'utilisation d'une bombe atomique sur le district 13, avait lieu. Donc voilà, ça on vous l'explique. Et elle a eu un impact énorme sur la vie de Coriolanus Snow, le futur président Snow, et sur sa vision du monde. Alors déjà pour une raison simple, c'est qu'il a perdu son père pendant cette guerre. Donc voilà, comme quelque chose qui va et pas expliquer, mais qui va montrer comment en fait on s'imbrique dans des mauvais choix.
Vous voyez, c'est, voilà. Oui, ça va nourrir.
Ça va nourrir certaines aigreurs, ça, voilà. Donc, et c'est la force en fait de Collins. Elle ne fait pas de lui un monstre d'office, hein, de ce Snow. Elle nous invite à suivre son parcours, ses traumas, ses douleurs, mais en fait aussi ses névroses, ses peurs et surtout ses délires. C'est-à-dire que par moment, je perds quand même, hein, mais voilà. Et en fait, surtout, ce qu'elle essaie de vous montrer, c'est la soif de pouvoir qu'il a. C'est cette soif de pouvoir qui est ancrée dans sa personnalité.
Ouais. Et en même temps, je trouve ça intéressant justement de sortir de cette diabolisation.
Ouais, c'est très intéressant.
Je dis ce mot exprès parce qu'en fait, il ne veut pas dire grand-chose, mais cette monstruosification de l'horreur, en fait. Et ça rappelait qu'en fait, n'importe quel dictateur n'est qu'un humain.
Bah oui, c'est ça. C'est ce qu'elle essaie de rappeler.
Il n'y a pas de gêne, ce sont des constructions, des choses qui font que.
Oui, des choix, surtout des choix.
Oui.
Et c'est ce qu'elle. Le livre est très axé là-dessus, sur le fait que, en fait, on fait des choix dans la vie, il n'y a pas de prédestination, il y a des choix. Et elle, là-dessus, Collins, elle est implacable. Et donc là, vous vous dites, mais quel est le lien finalement avec les Hunger Games, les trois premiers tomes, parce que c'est un peu, voilà. Eh bien, si vous avez donc fait le calcul, et je viens de vous le dire, vous avez vu que les précédentes histoires, elles sont donc. Vous avez vu que par rapport aux précédentes histoires, on est au 10e Hunger Games, donc c'est-à-dire qu'on est 64 ans avant, et c'est les 10e Hunger Games qui se mettent en place. Et si vous êtes des bons lecteurs des trois premiers tomes, vous vous rappelez que ces 10e Hunger Games, bon non pas, c'est les fameux jeux qui ont disparu. Donc voilà. Et ça a un sens, vous comprendrez pourquoi en lisant le livre. Et donc Snow est étudiant à l'université, et c'est là que tout se joue. Il va croiser Casca Hightbottom, qui est une connaissance de son père. Voilà, ils étaient les meilleurs amis à une époque. Et le docteur Volumnia Gaul, qui est spécialiste des modifications génétiques. Oui, parce qu'on est dans le futur, hein, je vous rappelle. Mais surtout, ce sont les deux personnes qui ont en charge les Hunger Games. Okay. Les fameux jeux de la mort. Pour mémoire, hein, les jeux de la fin, pardon. Pour mémoire, les Hunger Games sont là pour qu'on n'oublie pas, je vous dis ce qui est dans le livre, hein, pour qu'on n'oublie jamais la guerre, afin surtout... pour écraser encore les districts qui ont perdu par rapport au Capitole. Le Capitole, lui, il met personne dans les arènes. Il n'y a que les districts.
Mais en fait, c'est une revanche sans fin, en fait.
C'est une revanche sans fin. C'est ce qu'ils appellent une guerre sans fin. Donc, 24 tribus sont tirées au sort, une fille et un garçon par district. Et on les envoie s'entretuer dans une arène jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un ou une. C'est horrible, hein? Bah ouais, eh bien, vous dites que bien que si j'ai utilisé le mot garçon ou fille, c'est qu'en plus, ces tribus ne sont pas âgées du tout. C'est-à-dire qu'ils peuvent être très jeunes. Voilà. Ouais, ça va jusque-là, l'horreur. Donc, quand Panem réinvente finalement les combats de gladiateurs pour distraire la foule, et comme le dit avec un petit clin d'œil un héros du livre, Panem et Circeb, du pain et des jeux. Voilà. Et dans ce livre, on découvre que les élèves de l'université, en fait, ils sont mis à contribution pour trouver comment rendre les Hunger Games plus télévisuels et prenants. Voilà. Il n'en fallait donc pas plus pour que Snow se fasse une place aux côtés des deux dirigeants. Ah oui, parce qu'il a un peu envie de pouvoir. Voilà. Je ne vous raconte pas grand-chose du livre volontairement, parce que c'est un livre qui se dévore, et il faut... je ne vais pas vous donner trop de trucs, sinon ça va vous trouver ça dommage. Mais lui, en fait, Snow, il va tomber sur une tuile. Il fait partie des élèves qui doivent, du coup, suivre un tribut. Il est tout content parce qu'il est tiré au sort pour faire partie des élèves qui vont... Ouais, un des tribus.
Ah, okay.
C'est-à-dire qu'en fait, on attribue à un élève du Capitole le fait d'être le coach d'un des tribus qui est envoyé dans l'arène.
Okay,
voilà.
D'accord.
C'est ça, ça devient un petit peu une espèce de coach. Ouais, je sais pas comment dire ça. Et lui, en fait, il va se voir attribuer Lucy Gray. Alors, Lucy Gray, c'est une femme de caractère issue des Covets. Alors, les Covets, en fait, c'est les gens du voyage dans l'univers de Panem qui chantent divinement et qui, par contre, semblent n'avoir aucune chance de gagner. Bah oui, parce qu'elle est chanteuse. Donc, voilà. La tuile, pour lui, ce n'est même pas ça, en fait, finalement. C'est qu'il va tomber totalement amoureux de cette Lucy Gray. Et il n'aura qu'une obsession, faire d'elle la numéro 1, l'aider à vaincre pour qu'elle survive, quelles que soient les méthodes.
Okay.
Voilà. J'en dirai pas plus, mais sachez que les Hunger Games ne sont finalement pas au cœur du livre. Ils n'en tiennent que la moitié environ, et car bien des choses se passent par ailleurs. Et c'est dans ces choses-là qu'on comprend qui est Snow comment il va devenir ce président terrible. Et voilà. Alors même si je trouve que ce livre est déjà très intéressant en lui-même, il y a aussi plusieurs choses que je voudrais souligner. D'abord, Collins, elle réussit un tour de force. Elle propose 600 pages. Alors vous savez, aujourd'hui on dit dans la littérature jeunesse, on peut pas proposer plus de 100 pages parce que les gens en fait, ils aiment bien scroller, ils aiment plus lire. Oui, j'aime bien faire les vieux réacs comme ça. En fait, juste comme ça pour votre info, c'est le livre le plus vendu l'année dernière en littérature jeunesse. Donc voilà, 600 pages, ça n'a pas fait peur aux gens. Je rappellerai que le moindre Harry Potter fait aussi 500-600 pages, qu'il y a plein de livres comme ça, The Witcher et compagnie, qui font plein de pages. En fait, non, si vous êtes intéressant, les pages, ça fait pas peur. Ouais. C'est tout, voilà. Et en fait, bah, c'est 600 pages totalement passionnantes. C'est ça qui est assez génial. Elle s'est accélérée quand il y a besoin, parce qu'elle veut pas faire durer son histoire trop longtemps, pour un moment. Et puis, elle sait poser les choses quand c'est nécessaire. Elle sait surtout les poser quand elle pose une réflexion politique au travers de son livre. C'est là que c'est intéressant, justement. Dans les dialogues, dans le positionnement. Ensuite, elle porte un regard finalement humain sur une ordure. Parce que c'est ça qui est important, ce que tu disais tout à l'heure. Et ça peut nous déstabiliser, mais en fait, elle rappelle simplement, et c'est ce que tu disais, que non, les monstres n'existent pas, et que oui, on devient une ordure parce qu'on se persuade qu'on est légitime à le devenir. Et c'est tout ce que démontre en fait Collins dans son livre. Parce que ce Coriolanus, j'ai du mal à dire, Snow, n'est pas que désagréable. Par moments, on se surprend, non pas à l'apprécier, mais à se dire que si on l'avait eu comme copain de chambrée, par exemple, bah, il nous aurait été très difficile d'imaginer ce qu'il allait devenir après. Elle va... ouais.
Bah, c'est pas marqué sur la gueule, quoi.
Ah non,
c'est
clairement. Pas... Ouais.
Enfin, alors après, c'est peut-être qu'il a déjà des propos, etc.
Non, pas
des
vraiment, en fait.
Mais en fait, c'est pas marqué sur la gueule des gens, quoi.
Il est très faux. Et d'ailleurs, juste pour ceux qui ont vu les films ou qui ont lu les livres, il est sympathique aussi, même quand il est dictateur.
Okay.
C'est un dictateur gentleman. Mais ouais, c'est vrai. Elle va aussi poser un nouveau personnage féminin attachant et inspirant. Hein. C'est Lucy Gray, hein, qui est une femme libre dans un monde où ça lui est quasiment interdit. Tout parallèle avec les États-Unis actuels n'est pas fortuit. Voilà. Elle se fiche des conventions et assume toujours ses choix. Mais elle a aussi une face plus fragile, car non, personne n'est une héroïne à plein temps. Voilà, une personne n'est monolithique, ça n'existe pas.
Oui, il n'y a pas plus de héros que de monstres.
Oui, c'est ça, c'est ce qu'elle démontre en fait. Et puis des fois, on devient héros malgré nous. Hein. C'est, voilà. Et un troisième personnage est là pour interroger une chose. Est-on réellement intégré dans la bourgeoisie quand on vient de la pauvreté? Voilà, et c'est une vraie bonne question, hein, de la part de Suzanne Collins. Alors, beaucoup de gens disent qu'à travers ce personnage, elle interroge son propre état. Parce qu'au départ, elle n'est pas très riche, et aujourd'hui, elle est plutôt riche. Donc, voilà. Donc c'est le personnage de Sejanus Plint qui va nous aider à interroger ça. Mais aussi la notion en fait, d'idéalisme et de choix politique, et les conséquences que ça peut avoir. Voilà. Donc vous l'aurez compris, je trouve que la lecture de ce quatrième volet des Hunger Games amène des questions politiques intéressantes au travers d'un roman. Bah déjà une question toute bête, hein. Qu'est-ce que la liberté? Et c'est pas rien, hein, parce que voilà, peut-on lui préférer la sécurité à la liberté? A-t-on besoin de dirigeants? Parce qu'elle vraiment, cette question se pose dans ce livre. Et le pouvoir, c'est pas un petit peu malsain? Bon, alors je vous rassure, hein, Suzanne Collins, déjà dans les premiers Hunger Games, elle l'a toujours dit, le pouvoir, c'est malsain, par définition. Elle cite d'ailleurs, elle fait une paraphrase d'une certaine Louise Michel.
Okay.
Dans le tome 2 de Hunger Games.
D'accord.
Elle dit pas le pouvoir est maudit, mais elle dit le pouvoir détruit et salit tout. Ce qui, voilà, donc, et elle l'a lu. Voilà. Donc moi je vous le dis, c'est un livre plutôt intéressant, c'est plutôt malin en fait de s'interroger sur le présent et sur le réel à travers la fiction, et c'est très très bien de le faire comme ça. Et donc moi je vous invite vraiment à lire Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur de Suzanne Collins, c'est aux éditions en France Pocket Jeunesse, parce que forcément c'est un livre pour les adolescents, sauf que c'est très bien écrit et que très honnêtement, si tous les livres pour adultes, comme on dit en France, étaient aussi bien écrits que les Hunger Games de Suzanne Collins, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de lecteurs et de lectrices. C'est un avis très personnel. Mais voilà, mais vraiment, je vous invite à... Et faites-le lire à vos ados, faites-le leur lire la quadrilogie maintenant du coup Hunger Games, parce que franchement, si vous voulez avoir des discussions intéressantes après avec eux, c'est une bonne porte d'entrée. Sur notamment le féminisme, sur la place des femmes, sur le pouvoir, sur est-ce que finalement, bah, ça rejoint ton sujet, est-ce que la police est toujours légitime? Vous voyez? Donc, voilà. Ben voilà, faites-leur lire, c'est vraiment intéressant.
Ok, et ben on passe à la musique.
Ouais, c'est
allez.
Parti.
je t'aime passionnément, tu m'aimes suffisamment pour que je reste. Mais pourquoi je reste? Sûrement parce que je t'aime passionnément, tu m'aimes suffisamment pour que je reste. Mais pourquoi je reste? L'amour est tel que l'on pardonne tout. Personne de nous n'est fou. Si ce n'est d'amour, on entend, on voit, on ne veut pas. Non, je ne suis pas aveugle, je ne veux juste pas voir. Laissez-moi y croire. Laissez-moi pleurer, tout ça parce que je t'aime passionnément, tu m'aimes suffisamment pour que je reste. Mais pourquoi je reste? Mais parce que moi je t'aime passionnément. Pourquoi je reste? Un jour peut-être tu m'aimeras à la folie comme je t'aime toi. Un jour peut-être tu m'aimeras. Un jour peut-être. Mais pour l'instant moi je t'aime passionnément et toi tu m'aimes suffisamment pour que je reste. Alors pour toi je reste.
Et vous êtes de retour dans la causerie au 102.2 ou sur radiocanu.org. Et c'était Zao de Sagazan. Oui, je vous en ai déjà mis parce que oui, je suis très fan de Zao de Sagazan. Et oui, je sais, elle a fait la une de Télérama, ce qui me classe dans les bobos bourgeois selon certains. Eh ben, je vous emmerde. Et donc, voilà. Et donc, c'était Zao de Sagazan avec Suffisamment. J'avais eu la chance de la découvrir sur scène dans un festoche qui est pas très loin de Lyon, à Charnay, qui s'appelle Les Vendanges Musicales. Elle m'avait bluffé parce qu'elle est bluffante, je le dis. Elle a 23 ans. Elle prenait toute la scène. Enfin, je sais pas comment expliquer ça avec ses machines électroniques malgré tout. Et voilà. Et moi, je vous invite vraiment à découvrir son univers. Et son premier album vient de sortir et ça vaut vraiment le coup. Mais vraiment.
Et voilà. Nickel.
Et ben on va faire un peu de brève.
Ouais.
Il y a 2-3 trucs qui se passent qu'on vous invite à aller chercher sur Rebellion ou autre, voilà, qui sont souvent des choses qu'on a déjà annoncées, des suites de comme politiser nos vies, des choses comme ça, nos intimes.
Intimes.
Voilà. Donc il y a des suites. Donc allez voir. On va pas vous redonner toutes les infos. Si vous avez déjà accroché la première fois, vous allez aller les chercher. Sinon vous allez sur rebellion.info et vous avez tout dans l'agenda. Et sinon ben jeudi. Bah ouais, parce que jeudi, il devrait faire pas trop mauvais, mais un peu frais. Alors, habille-toi. Mais en tout cas, il faut que tu sois situé sur Lyon à 11h, place Jean Masset, pour la manif. Bah ouais, parce que... bah ouais, toujours pas parti, hein, ce truc des retraites-là. Donc, va falloir continuer, hein, quand même. Donc voilà, il va falloir qu'on mette un petit coup de collier, comme on dit. Donc, c'est à 11h, place Jean Masset, pour Lyon. C'est à 16h30, place du Promenoir, pour Villefranche-sur-Saône. Il y a aussi à 17h30 à Tarare, mais j'ai pas où c'est. Mais bon, Tarare, c'est pas grand. Donc a priori si vous sortez d'être chez vous à Tarare, vous voyez à peu près où ça va se passer. Voilà, et c'est un appel à de l'intersyndicale, de toute l'intersyndicale. Et l'idée, bah, c'est de maintenir la pression. Et voilà. Et alors, pour tous ceux qui ont envie de dire grève générale, tout ça, j'ai bien entendu. Tout le monde a bien entendu. J'adorerais que ça se fasse, mais ça se fait pas tout seul. Donc, il va falloir qu'on aille convaincre les gens, les salariés, voilà, d'aller, de faire grève générale. Mais au-delà de ça, il faut aussi convaincre tous les retraités, tous les chômeurs, tous les gens qui peuvent aller manifester et qui, eux, n'ont rien à perdre. Parce que, enfin, voilà, de venir, parce que plus on sera dans les rues, mine de rien, ça finit par peser. Et si on pouvait jeudi être plus que la dernière fois, et encore plus, ça finira bien quand même par faire assez de bruit. Voilà, donc du coup, 11h, place Jean Massé, ou 16h30, place du Promenoir à Villefranche.
Eh bien, très bien. Je crois qu'on a tout dit.
Oui, très bien.
Eh bien, alors, c'est l'heure de se quitter tranquillement. Oui. On vous donne rendez-vous dimanche prochain. Oui, on donne rendez-vous dimanche prochain. Non, je réfléchis.
T'as hésité, mais on est là.
Oui, mais je sais pas. Des fois, je crois qu'on n'est pas là.
D'accord. C'est dans ta tête que t'es pas là.
C'est lui, il est tout seul, il est pas là. Il a dit, je suis pas là. Ouais.
Et donc, on va se quitter en musique. Quelque chose d'assez planant. C'est un groupe breton. C'est une diable. Accompagné de Paz Courte et courte, je ne sais pas. Et le titre, c'est Primera Estrella. C'est ça, j'ai bon ? C'est bon, Clara ? Merci, tu valides.
Oui. Parce qu'on s'est fait reprendre sur la prononciation. Je tiens à vous le dire.
Surtout moi.
C'est
vrai. Et on vous donne donc rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à toutes et à tous. Bon courage, bonne lutte pour celles et ceux qui peuvent et qui y seront. Et puis, ben voilà, dimanche prochain, bon courage à toutes et tous. Des bisous.
Des bisous.
Ciao, ciao.
Se despierta en silencio la primera estrella. De un dorado que eterno presagia el final. Horizonte.